bien, 3 jours avant la fin du monde, table ovale sans ellipse de la fin de l'année, table ovale sans ellipse à Villefranche-de-Rouergue, avec autour de la table avec Claude Devezin, pour Europe Écologie Les Verts, Jean-Louis Calmette, pour l'Union, pour l'UDI, Bernard Mort, pour le Parti communiste français Romain Vaste, pour le Parti socialiste Jean-Michel Boussier, et pour l'Union pour un mouvement populaire, c'est bien ça, oui, bon, Laurent Tranier. Et donc notre sujet de ce soir, je dois à la vérité de dire que nous demandons à nos convives de nous suggérer des sujets, et Monsieur Calmette, pour Europe Écologie et Verts, je résume ce qu'il nous avait suggéré, c'est de voir si les grands projets, les projets considérables auxquels on voit souvent les écologistes s'opposer, comme les aéroports, les autoroutes, le TGV, les canaux, le nucléaire, si ces grands projets ne bouffaient pas, ne consommaient pas toutes les possibilités des petits projets profitables localement. Et je dois dire que j'ai arranger le sujet pour le proposer à mes convives. La notion de progrès est sujette à controverse. Parlons donc de confort et de prospérité pour savoir si ces derniers pourraient être dégradés par les préconisations des écologistes politiques français à force de modestie, de tempérance et de parcimonie, qui sont des vertus tout de même. Si tant est que des champs d'éoliennes ou de photovoltaïques cadrent avec ces vertus, justement. Monsieur Calmette, vous avez la parole.
Oui, d'abord sur cette notion de progrès. Alors bien sûr, on ne peut pas être contre le progrès totalement, contre le développement, mais bien sûr qu'il ne faut pas le limiter à des actions de courte vue. Et au terme que vous parlez de parcimonie, de modestie, de tempérance, nous, on préfère parler de précaution et de prévention. Ce sont d'ailleurs deux principes qui sont...
Ça fait un gros travail au dictionnaire et synonyme, important.
Oui, oui, c'est vrai, vous avez bien travaillé. Précautions qui sont d'ailleurs dans la loi française. On parle du principe de précaution qui était dans la journée de Rio en 92, qui est dans la charte de l'environnement de 2005, qui est adossé à la Constitution, qui mériterait même pratiquement d'être dans la Constitution. Et puis le principe de prévention qui était dans la loi Barnier de 1995. Pour moi, ce sont des principes qui devraient être appliqués plus fortement que pour le moment. Alors, bien sûr que nous ne sommes pas contre un progrès, mais nous avons, par rapport à d'autres, qui ont une vision non critique du progrès scientifique et technique, qui est pour eux supposée intrinsèquement positive. Nous avons peut-être plus de réserves, et par rapport, par exemple, aux valeurs des Lumières du 18e siècle, qui était la raison, la science et le progrès, et bien nous, on leur enlève un peu leur majuscule pour essayer de leur enlever cette position qui est surplombante, et pour ajouter aussi ce qui nous semble plus important à l'heure actuelle, c'est la vision écologique de cette société. C'est un concept d'ailleurs que développe un sociologue qui s'appelle Philippe Corcuff. Donc oui au progrès, mais allons-y doucement et prenons le temps, et surtout que tout le monde profite de ce progrès.
Alors, la question, pour l'instant, M. Boussier, c'est le Parti Socialiste qui est aux affaires, et c'est lui et qui a à maîtriser des manifestations défavorables, on va dire, pour prendre un euphémisme, par exemple, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On verra à relocaliser tout à l'heure les projets. Qu'est-ce que vous pensez de ce préliminaire du mien et surtout de celui de M. Calmette?
C'est là, lorsqu'on est en responsabilité, effectivement, on doit faire face à un certain nombre de choses et assumer... bien évidemment, les manifestations de tout ordre qui se font jour ici ou là. Moi d'abord, je voudrais féliciter CFM Radio et vous féliciter, Monsieur Devezin, parce que quelque part ici, ce soir, à Radio CFM, on contribue au débat national qui a été engagé très récemment par la ministre de l'écologie et du développement durable, Delphine Batho, sur la transition énergétique. Donc on y contribue là... localement à notre niveau. Et effectivement, tout le débat sur la transition énergétique, c'est pas seulement le débat sur le nucléaire, peut-être qu'on va l'évoquer tout à l'heure, c'est aussi la sobriété énergétique, quelque part, et c'est comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. ainsi que le réchauffement climatique qui est de plus en plus une réalité. Voilà, donc c'est je crois ce contexte donc global qu'il faut avoir. Alors après, effectivement, il y a un certain nombre de projets qui rentrent ou qui rentrent pas dans ce cadre-là. Bon, c'est vrai que Notre-Dame-des-Landes fait écho jusqu'à Villefranche de Rouergue, jusqu'à la place Notre-Dame qui a été baptisée ou rebaptisée provisoirement récemment par ceux qui s'opposent au projet Notre-Dame-des-Landes. Alors moi, Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui est pas dans la région Midi-Pyrénées, qui est pas dans le Rouergue, ce qui veut pas dire qu'il m'intéresse pas, loin de là. Moi, de ce que j'en sais, c'est un projet qui traîne depuis une vingtaine d'années, et où il y a une dizaine d'années, il y a des choix qui ont été faits.
Presque aussi longtemps que l'A88.
Tout à fait, presque aussi longtemps, même presque plus longtemps, je sais plus.
1963.
Alors, 1963, alors, donc, plus longtemps, moins longtemps que la RN88. Et c'est un projet, a priori, qui correspond dans le grand sud-ouest, plutôt grand ouest, à une nécessité économique, où tous les acteurs politiques locaux l'ont validé, ce projet-là, qui n'est pas nécessairement une création, qui est aussi une relocalisation, j'ai envie de dire, de l'aéroport actuel de Nantes. Voilà, moi, ce que je peux en dire. Après, bon, il faut être aussi à l'écoute, effectivement, de ceux qui ne partagent pas cela, et de mieux les associer aux décisions, et voir notamment en matière environnementale ce qui pourra être fait pour prendre en compte un certain nombre de choses. Mais je pense que c'est un projet qui se fera. Voilà. Mais moi, je le regarde avec une certaine distance. Voilà. Après, il y a des projets, il y a des choses qui se passent aussi qui sont intéressantes en Aveyron. Bon, vous avez évoqué tout à l'heure le parc des éoliennes. Bon, à Salcuran, en Aveyron, le parc des éoliennes, 29 éoliennes, je crois, parc, il y en a qui étaient rajoutés récemment, et un des parcs le plus important de France. Je pense que c'est la troisième production d'énergie en Midi-Pyrénées, alors là, en l'occurrence d'énergie renouvelable, après Golfech et après les sites hydrauliques dans les Pyrénées. Je pense que la production qui est faite en énergie est l'équivalent de 140 000 à 150 000 habitants par an, c'est pas rien, voilà. Donc ça fait partie, ça contribue à des choses nouvelles. Voilà. Et en plus, ça rapporte de l'argent aux collectivités locales qui sont en difficulté aujourd'hui dans leur budget, puisque est évalué, je crois, à plus de 450 000 euros. Les apports qui sont faits annuellement par l'exploitant, qui est en l'occurrence un seul exploitant, et qui permet à ce que la commune de Salcuran, comme la communauté de communes, comme le conseil général de l'Aveyron et le conseil régional Midi-Pyrénées, qui sont partenaires de ce parc-là, puissent quelque part aussi avoir des finances pour des projets locaux.
Alors donc tout est donc, pour le mieux dans le meilleur des mondes. On va combattre les gaz à effet de serre, et le fait d'avoir davantage d'avions et davantage de voitures n'est pas un inconvénient. Et de toute façon, on va se concerter et on a des éoliennes. Je suis obligé de lancer le débat parce que je vous ai trouvé très consensuel, Monsieur Calmette, et vous, Monsieur Boissier. Peut-être que l'UMP sera moins consensuel, Monsieur Tradi.
Voilà.
Oui, écoutez, on va essayer de sortir du monde de oui-oui dans lequel semble baigner nos amis socialistes et écologistes, alors qu'ils se livrent une guerre de tranchées tous les jours au gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Pas vous. C'est vrai, pas vous.
Alors, pour ce qui est de la notion de progrès sur laquelle vous nous amenez, pour laquelle vous nous amenez à réfléchir, la notion de progrès, elle est fondatrice pour notre société et même pour notre civilisation occidentale. Depuis le XVIIIe siècle, progrès scientifique et technique, progrès moral, progrès économique et social, au sens de l'amélioration des conditions de vie et d'existence des individus. Alors, on sait aujourd'hui que le progrès scientifique a aussi sa face sombre, que les avancées sont aussi source de risques. Pour autant, on peut pas considérer que depuis ces siècles passés, les progrès scientifiques et techniques n'aient pas bénéficié, n'aient pas permis d'amélioration des conditions de vie dans nos pays et dans notre région. Alors aujourd'hui, c'est vrai, alors que qu'on doit continuer à avancer dans cette direction, un certain nombre de forces obscurantistes, je dirais, s'opposent à tout. S'oppose aux routes, s'oppose aux nouvelles sources d'énergie, s'oppose comme si Monsieur Calmette parlait tout à l'heure de regarder loin, mais comme s'il regardait loin en arrière pour nous ramener à une époque qu'on a quittée heureusement. Il s'agit pas d'être irénique, d'être radieux du progrès, mais ça reste, je crois, pour les responsables politiques. Un combat et une valeur qui mène et qu'on doit mener jour après jour.
Monsieur Vass, si ma mémoire est bonne, les communistes à une époque ont été très pro-nucléaires, ils le sont plus ou moins encore d'ailleurs. Peut-être, je dis ça pour essayer d'avoir un petit peu de débat, quoi.
Oui, il est vrai que après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a reconstruit la France avec les gaullistes, parce que c'est quand même comme ça que ça s'est fait, l'industrie et l'économie étaient très importants et que le manque de filières énergétiques nous ont fait pousser ce programme. Mais vous savez que notre position actuelle dans le fonds de gauche est beaucoup plus raisonnée. C'est-à-dire pour nous, il s'agit de faire un mémorandum, de faire un grand débat national avec les pour et les contre, et d'aboutir à un référendum pour avoir l'avis de la population sur quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire la filière énergétique. Il n'y a pas de civilisation sans énergie. Bien entendu, il faut d'abord s'occuper des gaspillages, mais il reste que les besoins en énergie vont augmenter au moins au même rythme que la population. Et si l'on veut avoir une véritable politique sociale, économique et culturelle, les besoins en énergie vont quand même augmenter. Donc il est très important de définir cette politique de façon transparente, et donc le référendum nous semble très indiqué. Ça n'est pas dans des bureaux parisiens ou ailleurs qu'on peut définir la politique énergétique pour la nation. C'était un peu votre question ?
Ça répond, hein.
Si vous le permettez, je voudrais quand même qu'on redéfinisse quelques termes, parce que c'est important. Bon, le progrès, on est pour le progrès. Je rejoins ce qu'a dit M. Tranier là-dessus, d'ailleurs, très bien, parce que c'est peut-être discuté, le progrès, dans ses excès, bien entendu, mais les intéressés savent très bien quand il y a progrès social ou récession sociale, il n'y a aucun doute là-dessus. Au niveau économique, c'est la même chose, au niveau culturel, c'est la même chose. Vous employez le terme « prospérité ». C'est un terme aussi qui mérite d'être bien regardé pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut parler de prospérité en confortant l'énorme gaspillage de la société capitaliste ? 20-25% de produits agroalimentaires jetés, des produits industriels très fragilisés volontairement et pas réparables, donc jetés, des modes branchés du genre iPhone, smartphone ou autre, où la couleur change, l'épaisseur change, mais enfin, il n'y a aucune nouveauté, mais il faut changer le produit. Des milliers de kilomètres pour un pot de yaourt ou des crevettes décortiquées. Le marketing avec la pyramide de Maslow qui invente des besoins purement théoriques pour vendre des marchandises, etc., etc. En conclusion, la mesure... quand on parle d'un concept, il faut bien le mesurer. La mesure de la prospérité par le PIB est une chose certainement extrêmement erronée et dommageable. Et il faut, de notre point de vue, y substituer l'indice de bonheur qui a été défini par différentes structures, ATTAC et d'autres, et l'ONU, et, c'est-à-dire un indice qui tient compte dans le développement humain de la santé, de l'habitat, de la culture, etc., etc. Et le bonheur mesuré ne sera pas du tout le même qu'avec le PIB.
Est-ce que vous permettez, quand même, pour l'UDI, justement, vous dites que la santé est un élément important de la mesure du bien-être des populations, et je le crois. D'ailleurs, en archéologie, pour reconnaître un cerf, pour reconnaître un esclave, dans l'Égypte, c'est pas difficile. Ils ont des ostéophytes, ils ont de l'arthrose, et on peut savoir 2000 ans après ou 3000 ans après qu'ils ont qu'ils étaient donc pas des des seigneurs qui travaillaient avec leur dos et leur sueur. Mais en ce qui nous concerne, et quoi qu'en disent les écologistes, qu'on mange de la des choses qui ne sont pas saines et que sais-je, il est à peu près, on gagne actuellement en longévité un trimestre tous les ans ou un an tous les quatre ans, si vous préférez, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, là, il y a vraiment eu une augmentation du confort et qui s'est répercutée sainement sur la santé. Il faut quand même, moi, je crois qu'on est un petit peu le côté trop bien nourri par rapport aux gens qui étaient en Union soviétique, par exemple, pour prendre un exemple.
Oui, sauf que c'est vrai, c'est la durée de vie est tout à fait un critère important. Sauf que depuis quelques années, elle recule. Elle recule en Allemagne.
En Union soviétique, elle était de 55 ans et elle recule sur l'alcoolisme. Elle est entrée en plein de baisse.
En URSS, elle recule justement, massivement récemment. Récemment. Et l'alcoolisme.
Elle aura du mal à reculer en URSS récemment, mais.
J'ai connu quand même quelques soviétiques, l'alcoolisme, ils n'étaient pas en reste sous l'URSS. Donc, le critère est autre.
Si vous me permettez, on sort un petit peu du sujet.
Oui, un peu.
Au fond, c'est un peu de ma faute, parce que quand j'ai voulu synthétiser les questions de M. Calmette, je vous ai amené à prendre de la hauteur, c'est toujours bon, mais je voudrais qu'on revienne sur le concret et sur le local. Quand on parle de gros projets qui peuvent... consommer de l'argent, c'est ça finalement, au détriment de petits. Monsieur Calmette, est-ce que vous aviez des idées locales ?
Alors, moi j'ai des idées locales, mais surtout, je pense qu'en tant qu'élu et qui participe à des budgets des collectivités, on s'en aperçoit tous les jours. C'est que pour faire nos projets, on a de moins en moins de l'argent, que ce soit de l'État ou des collectivités locales. Donc cet argent, il est bien quelque part. Il doit bien passer quelque part. Et il passe notamment dans ces grands projets qui sont aussi inutiles, qui sont ruineux et en général qui sont destructeurs pour l'environnement. Alors, pour revenir au cas de Notre-Dame-des-Landes que M. Boussier a évoqué, je ne suis pas d'accord avec lui pour dire que c'était une nécessité économique. Je crois qu'il y a assez d'arguments pour montrer le contraire. Il y a 14 quand même aéroports dans tout le Grand Ouest de la France. Il y a eu des tas de pilotes qui ont dit que de toute façon, c'était très facile d'atterrir à Nantes et qu'on ne gênait pas la population. La population d'ailleurs, la plupart témoignent qu'ils ne sont pas gênés par l'aéroport de Nantes. L'aéroport par exemple de Genève, qui a qu'une seule piste comme à Nantes, a une circulation de 4 fois plus d'avions qu'à Nantes. Donc il n'y a pas une nécessité économique. Ça, c'est quelque chose de sûr et c'est prouvé. Alors, bien sûr que...
C'est ce que disent les élus locaux, chers
oui,
collègues.
Alors, vous parlez des élus locaux. Il y a quand même 1000 élus en France qui sont opposés à ce projet, dont 500 en Loire-Atlantique. Donc, il faut relativiser. Il y a peut-être M. Oxiette, M. Hérault et leurs amis. Mais je peux vous dire que la plus...
très large.
Oui.
Je crois que Notre-Dame-des-Landes nous a assez occupés. C'est à 500 kilomètres. On pourrait recentrer peut-être sur la déviation.
Notre-Dame-des-Landes, c'est symbolique justement de ce qui se passe en France, à Midi-Pyrénées et même en Aveyron. Tout l'argent qu'on va mettre sur la RN88 ou d'autres routes, il n'ira pas aider les collectivités. Par exemple, plutôt que de donner l'argent à la RN88, le Conseil général ferait mieux de revenir sur faire payer les transports scolaires aux habitants, parce que ça, les parents d'élèves vont payer l'an prochain 150 euros par enfant pour transporter leurs enfants, alors qu'on va donner 15 millions encore à la RN88. Ce sont des petits scandales comme ça. C'est l'autoroute Castres-Toulouse que le Conseil régional va financer. C'est la LGV. Alors la LGV, c'est une ligne à part pour faire circuler des trains à grande vitesse, alors que ces trains à grande vitesse peuvent circuler, certes, beaucoup moins un peu moins rapidement sur les voies actuelles, et il y aurait autant de trains. Et on boufferait surtout beaucoup moins de terres agricoles. C'est tous ces projets que les gens, maintenant, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol de voir tous ces projets inutiles, ruineux, destructeurs. Et puis, ils s'aperçoivent...
Les destructeurs étaient un peu exagérés.
Ils sont totalement destructeurs. 2000 hectares de bonnes terres agricoles, demandez aux agriculteurs. C'est un département français tous les 10 ans qui disparaît.
Quand vous installez une route nationale, que vous permettez des implantations d'industrie dans une zone qui est enclavée, moi, je pense qu'on est constructeur.
Alors,
c'est votre avis.
Oui, je vais vous raconter la A75 qui devait faire merveille dans l'Aveyron. On a fait une belle zone à la cavalerie. Et vous savez qui c'est qu'il y a dans cette zone industrielle ? Eh bien, des entreprises de Millau, de Saint-Afrique, du Vigan, une entreprise de 60 personnels, l'entreprise Vincent Cadeau qui d'ailleurs depuis a coulé. Hein. Voilà les entreprises qui viennent. Alors, ce qu'on va voir au bord de la Reine 88, ils vont venir de Villefranche, ils vont venir de Cazeville. Ne vous inquiétez pas. Et si c'est ce que vous appelez ça la prospérité, ben moi, non. Je préfère que nous gardions nos routes, qu'on aménage la Reine 88 pour des questions de sécurité. Je veux bien réfléchir qu'à des endroits, il faut faire des créneaux de dépassement, qu'on dévie Baraqueville, il y a des choses à faire, mais le doublement intégral, c'est pour faire circuler les camions, et de transit uniquement, des camions qui arriveront avec des tomates d'Espagne et qui viendront les livrer en France. C'est tout à quoi ça sert, les grandes routes.
Moi, quand j'entends monsieur Calmette, ça me rappelle, il y a quelques mois à Villefranche, nous avons fait des travaux, il y en a en permanence, sous les arcades, qui sont magnifiques, autour de la place Notre-Dame. Et on a eu un début de pétition qui était « Rendez-nous nos vieux trottoirs et notre vieil escalier qui était tout défoncé, tout tordu et dangereux et moche. » Et j'ai l'impression que c'est l'avenir que nous propose monsieur Calmette.
Vous êtes la caricature, comme l'obscurantisme tout à l'heure que vous avez parlé. Enfin, je ne veux même pas écouter ce que vous dites à ce sujet-là, parce que c'est pratiquement de la caricature et de l'insulte.
Je vous écoute, non, c'est pas de l'insulte.
Non,
vous caricaturez.
Je
trouve que vous êtes caricatural. Vous êtes pour le désenclavement des territoires, mais vous êtes contre les routes, contre les trains,
contre. On n'est pas contre les routes, contre les trains. On veut des routes et des trains comme il faut. C'est tout.
Oui, bien sûr.
Il y a un juste milieu à trouver, et pour le moment, on le dépasse.
Vous êtes contre le pétrole, contre le nucléaire, contre les barrages qui inondent, contre les éoliennes qui sont moches dans le paysage.
Ah bon ?
Vous êtes contre tout.
Je n'ai pas entendu M. Galmen dire ça.
Vous êtes contre tout.
Caricature.
Vous êtes pour les éoliennes, excusez-moi. Vous êtes juste contre le pétrole et contre le nucléaire. Mais en même temps, vous avez parlé tout à l'heure de développement et de progrès. Tout ça, ce n'est pas compatible. En fait, il ne faut pas mentir aux gens. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous nous parlez de décroissance aussi dans votre programme.
Non, j'ai jamais parlé. J'ai pas dit un seul mot de décroissance.
C'est dans votre programme, la décroissance.
Non, c'est absolument faux.
C'est dans votre programme.
Croissance sélective.
Ça va avec 32 heures d'ailleurs.
Croissance sélective.
La décroissance, on sait ce que c'est. On a eu en 2009. On a eu en 2009 de la décroissance. C'est le même mot. C'est la récession. C'est des centaines de milliers de chômeurs.
C'est la décroissance. Il y en a beaucoup qui l'ont grâce à vous pour le moment. Hein.
Si vous voulez, je crois que la question en fait a été réglée à la fois dans les urnes par le poids que les électeurs ont donné à Génération Écologie, les Verts, et dans le gouvernement par le mépris dans lequel les tient le gouvernement Hollande, mépris dont d'ailleurs se satisfont complètement les ministres écolos, puisque je crois que leur grande ambition, c'était pas forcément de faire reculer le nucléaire ou je ne sais quoi, c'était surtout d'être ministre. Bon, on en est là, et restons-en là. Pour ma part, je crois que sur nos territoires, on a besoin d'investissements, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de la Reine 88 dans le centre Aveyron, on a besoin à Villefranche d'une rocade sud, et on a des habitants, figurez-vous, il y a même des habitants dans nos territoires qui souffrent de voir passer le camion devant leur palier, voilà, et oui, des camions qui vont à la zone industrielle où eux-mêmes travaillent.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous préconisez? Peut-être on ferme la zone industrielle, on fait partir le monde, on garde notre vieille route.
Ce qui est gênant, c'est pas les avions, les camions qui livrent des zones industrielles. Ce qui sont dérangeants, c'est tous ces camions de transit qui ne devraient pas être sur nos routes.
Mais on n'a pas de camions de transit entre deux Cazeville et Villefranche. Je sais pas
de
quoi
vous
parlez.
Mais moi, je vous parle de cela, ou ceux qui sont sur la rocade de
Villefranche. Oui, vous parlez de cela, mais moi, je vous dis qu'il n'y en a pas. Nous avons une économie locale à développer. Moi, je suis attaché au territoire de l'Ouest Aveyron. Je souhaite qu'il se développe de façon raisonnable. On en a les moyens, on a la richesse humaine pour. La prise de conscience, elle est générale sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en matière d'environnement. Le monde agricole, pour parler de choses concrètes, les agriculteurs ont grandement évolué depuis ces dernières années. Ils ont appris à ce qu'était une agriculture raisonnée et aujourd'hui, ils sont capables de produire de façon beaucoup plus saine des aliments de qualité. Et j'y suis attaché à ce que cela se poursuive et qu'on maintienne sur notre territoire une industrie agroalimentaire de transformation avec des emplois qui vont avec. Et pour cela, il nous faut bien sûr des moyens de transport pour être reliés au reste du monde. Voilà, puisqu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est relié et connecté.
Les transports des productions locales, localement, si j'ai bien compris, M. Calmette, il est tout à fait d'accord.
Son problème, c'est les transports transcontinentaux. Mais, alors, est-ce que... Moi, je voudrais qu'on purge l'abcès, là, quand même, parce que, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'échanges entre l'Espagne et le Danemark, si. Le Portugal et la Pologne?
Mais bien sûr, mais il faut le faire au maximum par rail, et s'ils peuvent se faire par camion, il faut qu'ils prennent les autoroutes. Vous avez un président du Conseil général...
Je suis contre les autoroutes, là.
Je suis contre les autoroutes, mais il y en a déjà.
Pleine contradiction.
Non, je ne suis pas de contradiction.
Mais vous êtes en totale contradiction.
C'est, je ne vais pas supprimer celles qui existent. Vous avez un président du Conseil général du Jura qui s'appelle un monsieur...
Pour qu'elles existent, pour qu'elles existent, il faut les construire à un moment.
Mais non, mais ils sont,
ça y est.
Il y en a assez de restes. D'ailleurs, on a fait des concessions, et il y a Vinci et Bouygues et tout ça, qui se font beaucoup d'argent là-dessus. Il y a le président du Conseil général du Jura qui s'appelle M. Raquin, qui est UMP, qui a fait un arrêté pour interdire les camions en transit sur son département. Et son voisin de Saône-et-Loire, qui s'appelle M. Montebourg, ils ont fait la même chose. Donc, ils ont interdit les camions en transit. Bien sûr que la circulation des camions locaux peut bien sûr se faire, sauf que ça a vraiment soulagé les riverains. Et bien sûr, on n'est pas obligé de faire des deux fois de voie partout à ce moment-là. C'est ça l'avantage. Il faut mettre un peu de bon sens dans nos transports. Le rail d'abord pour le transport des marchandises et après sur les autoroutes existantes. Et puis voilà.
Alors évidemment, pour le rail, pour faire transporter des primeurs d'Espagne d'Espagne ou Danemark, il faut certainement prendre le tortillard.
Mais c'est pas le tortillard. Mais vous avez des grandes lignes de rail en France. Ils en ont même fait une qui traverse le Massif central. Vous avez la Béziers-Neussargues qui demande qu'à être rénovée.
En ce qui concerne l'Espagne, elle est vraiment très isolée. En ce qui concerne le service ferroviaire, pour différentes raisons, parce que c'est des écartements qui sont différents et parce qu'il y a une barrière naturelle qui s'appelle les Pyrénées. Et je ne sais pas combien de récriminations on a eues en ce qui concerne le creusement des tunnels entre les Pyrénées et la France. Alors bon, moi, c'est... Et puis, je voudrais aussi...
Les camions ont besoin de tunnels autant que les trains.
Les camions ont besoin de tunnels autant que les trains. Et quand les trains, quand il s'agit d'un camion sur un train, c'est encore pire.
Alors avant qu'on reparle...
Et je voudrais quand même revenir sur le nucléaire, parce que le nucléaire, il ne faut pas croire que c'est une position écologique que vous avez. C'est puisque les écologistes anglais sont pour le nucléaire, parce qu'ils ont réalisé...
Pas les verts anglais, je peux vous le dire.
Ils ont réalisé, eux, que c'était une des rares industries qui n'avait fait que peu de morts par rapport aux industries ou du charbon. Je ne parle pas des silicoses et autre chose.
C'est sûr, ouais. Mais quand ça me fait.
Oui, mais justement...
Et puis ça n'a pas fini de me faire.
Alors, deuxièmement, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Et troisièmement, les nombres de morts ont été volontairement surestimés par des gens comme les écologistes pour dire qu'il y a eu affreux, il y a eu je ne sais pas combien de milliers de morts à Tchernobyl et combien de milliers de morts au Japon.
À Fukushima,
c'est surtout le raz-de-marée qui a fait des morts.
Oui.
Et les morts du nucléaire, ils se comptent sur les doigts d'une main.
Non, mais on les comptera dans les années prochaines, je peux vous le dire.
Voilà. Alors maintenant, vous avez droit à avoir vos convictions, mais pour Tchernobyl, on ne doit pas dépasser 50 morts. Mais c'est les statistiques officielles, je m'excuse.
Vous êtes en train de prendre la même position que le PC chinois, c'était en 86, et bien il y a 30 ans. Sauf que depuis, quand même, ils sont revenus.
Excusez-moi, mais ce sont des chiffres officiels.
Non,
ceux qui sont morts, ce sont les gens qui ont débarrassé la centrale. C'est
oui,
vrai.
Le liquidateur en premier, mais il en meurt tous les jours depuis 86. Des gens qui meurent des conséquences de Tchernobyl. C'est une honte ce que vous venez de dire, là. Je m'excuse,
C'est une honte de publier des chiffres qui sont 10 fois la vérité.
Je voudrais maintenant que les autres protagonistes du débat,
pour commencer,
Monsieur Boucher, qu'on revienne à nos camions et à nos chemins de fer qui traversent notre Aveyron. Là, quel est le point de vue du Parti socialiste sur autoroute, pas autoroute, transcontinentale au travers de l'Aveyron ou pas?
Aujourd'hui, il y a une nécessité de... Alors, d'abord rappeler qu'il y a eu un démantèlement du fret et de Cernam qui a été fait il y a quelques années et que malheureusement le réseau ferré aujourd'hui ne permet pas, hormis quelques grands axes, d'irriguer correctement, on va dire, le territoire et notamment le territoire aveyronnais. Donc il faut aujourd'hui, prenant en compte cela, faire effectivement qu'il puisse y avoir un transit, de, on va dire appelé de proximité ou de passage, mais qui fasse notamment que on résout le problème de ce fameux barreau qui subsiste à l'heure actuelle et de Baraqueville, on va dire à Sévérac-le-Château, partant du principe que le contournement de Baraqueville est acté et se fera prochainement dans les années à venir. C'est vrai que l'état actuel de la RN 88 de Baraqueville à Sévérac-le-Château n'est pas satisfaisant et il doit y avoir là-dessus donc des travaux nécessaires permettant un meilleur transit. Donc voilà, j'ai dit tout mon bien tout à l'heure que ce que je pensais sur les éoliennes en particulier et ce qui existe à l'heure actuelle dans le département de l'Aveyron avec des développements possibles, mais je dis aussi une position favorable à l'aménagement de la RN 88, de même qu'à la rocade sud de Villefranche, qui est en attente, notamment relative au tracé définitif et à différentes études qui ont été faites. Cette rocade sud de Villefranche permettra, au-delà de l'aspect réducteur à laquelle on voudrait la mener, à permettre de la zone de la Glèbe à la zone de la Madeleine, faciliter la circulation et est un tronçon qui facilitera les relations entre le Ségala, donc secteur de Baraqueville, et puis on va dire le Causse de Limogne, donc toute la partie qui nous amène vers le Lot. Voilà. Et à côté de ça aussi, il y a d'autres projets qui existent aussi au niveau local, parce que moi je veux bien qu'on parle de l'international et du national. Bon, on a notre idée, nos positionnements respectifs, même si on peut avoir des désaccords. Et je redis que les écologistes ont toute leur place au gouvernement. D'ailleurs, ils y sont à l'heure actuelle, ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Nos positionnements, là, sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple, l'on est montré tout à l'heure. Mais il y a aussi un projet sur lequel je suis tout à fait favorable au niveau local, c'est le réseau chaleur, un gros réseau chaleur qui doit être un des plus importants de Midi-Pyrénées, qui va se réaliser derrière... Le bâtiment de CFM Radio au quartier du Tricot et qui est mené par le maire de Villefranche, mais un projet sur lequel je partage et je soutiens ce projet-là, puisque au-delà de permettre le chauffage, on va dire, des équipements collectifs du Tricot, il devrait permettre d'aller jusqu'à l'hôpital de l'autre côté de l'Aveyron. Donc, je veux dire, c'est un grand projet qui permet à ce que qui est un financement important des collectivités locales, puisque c'est un choix de différentes collectivités locales, dont la région Midi-Pyrénées, conseil régional avec Martin Malvy, qui s'est fortement impliqué depuis de longues années dans les énergies renouvelables, le conseil général, l'ADEME, etc., donc des partenaires, et c'est un projet qui a toute sa raison d'être. Voilà. Donc moi j'en suis aussi un certain pragmatiste local. Voilà, j'ai des positionnements nationaux cohérents, mais aussi une nécessité de désenclaver le Villefranchois, l'Aveyron, voilà.
On a une expérience de réseau de chaleur de Cazeville il y a déjà longtemps que c'est comme ça. Et je voudrais en même temps, alors je me tourne vers M. Calmet, ce qui ne m'empêchera pas de donner la parole à M. Astod, mais dans la mesure où à Decazeville on a un réseau de chaleur, et on nous parle beaucoup d'énergie renouvelable, je rappelle que quand on brûle et qu'on génère du CO2, que le carbone ait été extrait de l'atmosphère il y a 40 ans ou il y a 40 millions d'années, c'est toujours du carbone. Monsieur Calmet.
Sauf que le bois, quand il se décompose, quand il vieillit, il rejette tout de même le CO2. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on brûle le bois, on fait zéro rejet de carbone. Mais oui, bien sûr que...
L'expérience du réseau de chaleur de Cazeville.
Alors nous, on a un réseau de chaleur qui est au charbon encore actuellement, mais il va passer au bois justement. Sauf qu'on a eu une mauvaise nouvelle dernièrement, avec l'augmentation du taux de TVA. Il va passer de 7 à 10% pour les réseaux de chaleur bois. Alors que le gaz va passer de 5,5 à 5%. Donc là aussi, il y a quand même une certaine maladresse de ce gouvernement actuel d'augmenter, par exemple, la TVA sur les réseaux de chaleur bois, sur les transports collectifs, qui vont aussi passer de 7 à 10, après être passé il y a 11 mois, de 5,5 à 7. Donc, transports collectifs, on double le taux de TVA. Et c'est pareil, bien sûr, pour la construction de bâtiments, et la rénovation des bâtiments, notamment la rénovation thermique, où la TVA va être aussi à 10%. Et ça, c'est quand même dommageable. Bon, c'est dans le pacte de compétitivité pour faire un cadeau de 20 milliards aux entreprises. Mais voilà, je pense que ces 20 milliards, on aurait pu les trouver ailleurs que dans la hausse de TVA que tout le monde va payer. Mais ceci dit, aller vers les énergies renouvelables, c'est très bien. Et je vois que même que ce soit Figeac, que ce soit Villefranche ou que ce soit ailleurs, tout le monde se lance dans des réseaux de chaleur. D'autant plus que nous avons une forêt qui grandit, qu'on le veuille ou non, et qui est très importante. Il faudrait juste structurer un peu l'exploitation de cette forêt pour vraiment utiliser la part qui grandit chaque année, mais tout en laissant quand même une réserve et un patrimoine forestier important.
Monsieur Vast.
Oui, ce problème de la filière énergétique est quand même extrêmement important. Sur les transports, je vous rappelle juste en passant que le ministre communiste Jospin était pour le ferroroutage, qu'évidemment c'est la solution, et il va bien falloir le construire. Pour ce qui est de l'énergie, je crois qu'il ne faudrait pas avoir trop d'idées préconçues. Le débat qu'on souhaite, nous, ce n'est pas un débat tiroir pour noyer le poisson, c'est un vrai débat. Parce que c'est vrai que l'atome, vous avez rappelé qu'on avait été pour, avec De Gaulle, pour monter ça. Ceci dit, c'est vrai que c'est quand même un danger totalement redoutable et qu'il y a eu quand même des expériences douloureuses. Les morts, d'accord, mais le risque à terme pour la population est quand même très grave. Or, l'erreur humaine ou naturelle existe, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même une énergie propre. Il est bien certain que fermer des sites nucléaires pour monter des centrales au charbon, je dois dire que j'en reste sur le cul.
C'est l'expérience.
Voilà,
malheureusement.
C'est ce que je veux dire. Mais quand même qu'on engage une progression dans les énergies renouvelables, c'est quand même quelque chose de très bien. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de recherches à faire et qu'il faut une politique nationale. Moi, je ne suis pas très pour opposer le local et le national. Il faut une politique nationale de la recherche, très importante, et plus que de la recherche. La plupart des en informatique, aussi bien que pour le solaire, etc., il faut des terres rares. Les terres rares, nos capitalismes royaux, là, qui ne pensent qu'au profit annuel, et si possible en spéculant, ont laissé acheter la plupart des mines de terres rares par les Chinois. C'est logique, ça. Ce régime, mais on va dans le mur avec. Hein. Quel que soit notre idée, régime, on va dans le mur.
Vous parlez de quel régime?
Le capitalisme financier actuel et mondialisé. Mais non, mais on va dans le mur, quelle que soit notre idéologie ou nos...
Monsieur, sur le régime capitaliste, monsieur Vast, je vous rejoins, il n'est pas parfait, il présente un certain nombre de difficultés. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'alternative à proposer.
Ici, il y en a.
Je reviens à nos questions locales, sur le réseau de chaleur-bois qu'on est en train de préparer, en tout cas, pour Villefranche. Qui est une volonté forte de Serge Roch et de toute l'équipe en place. Si Monsieur Malvy souhaite participer au financement, il sera bien sûr le bienvenu avec les fonds de la région.
Il n'y participe pas.
Écoutez, j'espère. Je veux bien croire le présage. Sur les réseaux, on a évidemment besoin d'investir dans les routes, on l'a dit, dans le train, aussi pour développer le ferroutage. Et l'Ouest Aveyron en particulier a besoin d'un grand projet qui aujourd'hui semble menacé dans sa mise en œuvre. C'est le grand projet sud-ouest de ligne à grande vitesse, dont le ministre des Transports est assez flou sur la pérennité. Et là, je rejoins complètement la volonté de tous les élus du sud-ouest. On peut reparler de Martin Malville, qui ont besoin, et Toulouse a besoin d'une ligne à grande vitesse, et l'Ouest Aveyron en a besoin aussi, et d'une gare TGV à Montauban dans une petite dizaine d'années, c'est important pour nous. Non, la LGV, c'est la ligne à grande vitesse. Vous savez qu'aujourd'hui, on voit des TGV en gare de Toulouse. En fait, ce sont des TGV qui roulent sur des...
TGV qui roulent sur des lignes à part.
Voilà, sur des lignes qui ne sont pas adaptées, donc ils roulent... lentement.
Il
roule comme un train normal et donc Paris
c'est
à 5-6 heures de Toulouse et en train. L'objectif c'est la LGV avec non seulement des TGV qui roulent sur une ligne adaptée qui doit être construite, bien sûr, qui permettent d'atteindre des vitesses commerciales de 300-350 km/h pour mettre en l'occurrence Toulouse ou Montauban à moins de 3 heures de Paris. Voilà, ça c'est une nécessité, on en a besoin. Et puis l'idée, c'est ensuite, c'est de prolonger cette ligne jusqu'à Barcelone, de faire la connexion avec Montpellier. Bon, là, on est dans du moyen terme, du long terme, malheureusement, mais c'est une nécessité pour le sud-ouest de l'Europe, pour l'Espagne, pour Portugal et pour notre territoire.
Je voudrais rappeler qu'on avait eu déjà le débat sur Romain Vaste, c'était là, je m'en souviens, le débat ici, dans ce studio, sur le TGV. Je m'étonnais qu'il faille que les collectivités locales passent au bassinet, mais dans des proportions gigantesques. Puisque, normalement, quand un industriel lance un produit, il va voir son banquier, et puis il rembourse son banquier, ce que les consommateurs lui donnent. On m'avait répondu autour de la table, toutes tendances politiques confondues, d'ailleurs, que ça pouvait pas être comme ça, parce que ça n'était pas rentable. Ça m'avait un peu surpris que les... Monsieur Mort.
C'est-à-dire que le problème de la rentabilité, c'est une rentabilité capitaliste. C'est-à-dire c'est une rentabilité où on fait des dépenses et des gains. Mais il y a un tas de choses induites qui sont incalculables, qui sont non monnayables. Et c'est pour ça que c'est les volontés politiques de vouloir alléger les transports, créer des transports ferroviaires pour alléger le transport par route, qui est moins consommateur d'énergie, le transport ferroviaire étant moins consommateur d'énergie. Et tous ces éléments-là, et les éléments de développement sont très difficiles à calculer et donc on ne peut pas les mettre en équation au début du projet. Mais ce que l'on constate, c'est que les villes qui sont restées à l'écart du train au 19e siècle, elles ne se sont pas développées, alors que les villes qui ont accepté le train se sont développées. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est incalculable. Pour répondre à Monsieur Vaste, c'est vrai que le capitaliste n'est pas un ange, mais c'est quand même celui qui a donné jusqu'à présent qui a permis un développement le plus important et un allongement de la vie le plus important. Et puis actuellement, il y a des projets quand même qui sont inspirés effectivement de la taxe Tobin. Il commence à y avoir d'une part, une interdiction des transactions à haute vitesse qui sont de la spéculation pure, et d'autre part, cette petite taxe qu'a mis Sarkozy, qu'a commencé à mettre Sarkozy, qui va en augmentant pour financer des projets qui n'étaient pas finançables autrement. Le capitalisme et le libéralisme vont faire des progrès, mais c'est jusqu'à présent le moins mauvais système. C'est comme la démocratie.
Monsieur Vaste.
Oh ben non. Les progrès techniques et autres ont été réalisés par le capitalisme d'entreprise, pas le capitalisme, le néo-capitalisme financier actuel. Les grandes firmes multinationales, écoutez, vous êtes docteur, vous connaissez Sanofi. Il vire tous ses chercheurs, il fait fabriquer dans l'Est ou dans les pays émergents, et il met dans des ampoules avec le truc dessus. Mais ce genre d'entreprise multinationale dont les profits sont supérieurs aux bénéfices de certains États, donc qui ont une puissance énorme, qui décident à quelques-uns, ils ne servent à rien en fait. Ça n'est plus le capitalisme d'entreprise, de fabrication, etc. Ils ne servent plus à rien. Et ils ont en domination le monde entier. C'est tout. 300 entreprises. 80% du PIB mondial.
Je crois que vous êtes là aussi un peu caricatural. Aujourd'hui, on ne peut pas séparer les mécanismes financiers des mécanismes industriels. Tout ça, c'est lié. La finance finance l'industrie.
Très mal.
Permet à l'industrie de fonctionner. Très mal en France, pour d'autres raisons. Ailleurs, ça peut fonctionner mieux. Après, ces entreprises... Ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'être, je ne sais pas si c'est un reproche qu'on doit leur faire, mais en fait, elles ont une dimension mondiale.
Oui.
Donc, elles n'ont pas un raisonnement national. Et nous, on a l'impression que ce sont des entreprises françaises, Sanofi, Total, ce sont des entreprises mondiales qui résonnent à l'échelle de la planète. Leurs intérêts sont planétaires.
Oui.
Alors, elles fonctionnent, elles s'organisent à l'échelle du monde. Voilà. Oui. À nous de savoir être attractifs, être compétitifs, pour les convaincre d'investir chez nous. Et malheureusement, ce n'est pas la direction que prend notre pays quand on soumet notre économie au matraquage fiscal qu'on connaît, ou quand on insulte
matin... La solidarité est nécessaire. La solidarité entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui crèvent de faim est nécessaire.
Oui, mais insulter les entrepreneurs... La solidarité fiscale est aussi nécessaire.
Quand on insulte les entrepreneurs... Et le respect du patriotisme aussi.
Quand on insulte les entrepreneurs français, les entrepreneurs étrangers, quand on insulte même les acteurs qui sont chassés du pays par la politique fiscale du gouvernement... comment voulez-vous qu'on contribue au développement et au progrès de notre pays,
hein, au progrès économique et social? Certains ont choisi de partir.
Ils ont choisi de partir, contraints et forcés, parce que sinon, ils n'avaient plus aucun intérêt à être en France. Voilà.
Il fallait qu'ils aillent au reste du cœur.
Ce sont les conséquences.
Comment ils arrivent à payer 85% d'impôts? C'est quand même curieux, ça. Le texte de loi ne le permet pas qu'il paye 85%
d'impôts. Vous y serez bientôt, M. Calmette.
Oui, c'est le détail.
Le gouvernement socialiste s'en occupe.
Bien sûr, bien sûr.
Le problème, c'est aussi cette mesure. D'ailleurs, elle est tellement démago que le gouvernement l'a mis pour 2 ans parce qu'il sentait bien que ça ne pouvait pas continuer comme ça.
Parce qu'il y a l'objectif de rétablissement des comptes publics en 2 ans.
Mais d'autre part... Ça, notre acteur de cinéma national, là,
oui, c'est Obélix.
Obélix, c'est l'écume des jours. Ce qui n'est pas chiffrable, c'est le nombre de jeunes qui vont s'installer en Angleterre pour monter leur
caricatural. Ils reviennent vite, ils comprennent de suite. Hein.
Quand ils ont compris
qu'ils ont des
tranches d'imposition qu'on les respecte et qu'on les honore et qu'on les vilipende pas comme on le fait actuellement pour les gens qui sortent du lot, comme on l'a fait pour les gens qui ont mis des start-up, à tel point que même le gouvernement a été obligé de revenir en arrière puisqu'il a accordé que les gens qui avaient créé, les créateurs d'entreprises, avaient droit à un régime fiscal particulier.
Ouais. On s'est là écarté du sujet, mais c'est pas en même temps, on a évoqué d'une part les taxations financières et d'autre part on a évoqué les bas revenus et les nécessités de solidarité. Alors, on est à la fin, mais ça me fait penser à une question qui est le RSA qui est censé être financé par une taxe sur des produits financiers, qui est loin d'avoir le succès, entre guillemets, qu'on pouvait penser, puisque beaucoup de gens qui y ont droit ne le demandent pas. On a d'une part une taxe sur des produits financiers, et on a d'autre part une solidarité. Monsieur Vast.
Oui, pardon.
Sur ce RSA et cette taxe qui devrait vous plaire, puisque...
Oui, nous plaît, mais enfin, c'est pas la mesure du problème, quoi. C'est pas la mesure du problème. Le problème, c'est de passer à quelque chose de sérieux. Parce que le risque de... provoqué par la finance est quelque chose d'absolument énorme. On peut pas s'en sortir avec des antibiotiques à 1/8 de dose quand la maladie infectieuse se propage à cette allure-là. Je dis ça pour moi. Et je crois qu'il est complètement urgent d'avoir des mesures assez radicales pour changer un peu ce monde et passer d'un programme actuel qui est le capital d'abord à un autre programme qui est l'humain d'abord et qui a toute une série de mesures tout à fait sérieuses pour enrayer ça, quoi.
Aucun d'entre vous ne veut réagir sur cette taxe qui n'est pas entièrement qui est récoltée, hein, mais qui ne serait pas entièrement consacrée au RSA.
Mais les choses se font petit à petit. Quand vous créez, quand le RSA a été créé, c'est vrai, il n'a pas été employé en totalité. Et là, le gouvernement actuel a montré qu'il avait ses limites. Et même, on sent que les gens, s'ils peuvent échapper au RSA, parce que c'est un petit peu stigmatisant de vivre de la... Bon, donc, à l'heure actuelle, il y a des gens qui ne veulent pas ou ne savent pas faire les démarches pour bénéficier de cette aide. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas multiplier les aides et les faire très difficiles à obtenir, parce qu'à ce moment-là, on arrive à des choses qui sont improductives. Parce que quand même, dans le RSA, il y a aussi la redistribution et il y a une consommation qui est faite par des gens qui ne vont pas thésauriser. Donc, ils vont remettre dans le circuit économique, ils vont remettre ce qu'ils ont touché de l'État.
Oui, M. Tranier.
Oui, le RSA.
Mais c'était un haut commissaire qui faisait partie d'un gouvernement de vos amis. Qui avait mis
le RSA a été créé par Martin Hirsch pour, enfin, à la demande de Nicolas Sarkozy, en remplacement du RMI. Il y a un volet quand même qui est essentiel et qui est peut-être le plus important du RSA, c'est que il s'agit d'une allocation, d'un revenu minimum pour les personnes qui n'ont pas d'autres revenus. On est d'accord là-dessus. Mais qui s'accompagne quand ces personnes retrouvent un emploi avec un bas niveau de salaire, de maintien d'un niveau d'allocation pour leur permettre de travailler, quand ils travaillent en tout cas, d'avoir un meilleur revenu que quand ils restent au niveau de l'allocation, pour encourager à la reprise du travail. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un des problèmes de notre pays, c'est le faible écart entre les minima sociaux et tous les avantages qui vont avec, et les bas salaires. Donc, pour que travailler soit réellement motivant, l'idée du RSA, c'est de donner une allocation.
Une fois, on oublie qu'il y a 5 millions de chômeurs, encore une fois,
et qui
n'ont pas beaucoup d'espoir, malheureusement.
Mais tout à fait, il y en a 1500 chaque jour, ça m'attriste autant que vous. Aujourd'hui, j'ai appris encore que
vous
Texas
avez
un instrument. C'est ma faute, monsieur Calmette.
Vous l'avez dit.
Et vos amis. Sarkozy, notamment, qui ont été repoussés à ces derniers temps.
Sinon, c'est moi qui suis caricatural. Bon.
C'est
la juste réalité.
Les 5 millions, oui. Il y en a peut-être maintenant.
Sérieusement, le but du
50 000 de plus, mais.
Le but du RSA, c'était d'encourager à la reprise d'activité. Voilà. Son échec est peut-être là. C'est qu'il peut se retourner et devenir un piège pour les gens.
L'échec, ce qui me surprend, c'est qu'on récolte une taxe intéressante et qu'elle n'est dépensée que pour moitié. Alors, je voudrais savoir où passe l'autre moitié, mais apparemment.
On va mener une enquête. On va mener une enquête.
On parle de 5 millions à 1 milliard hein, quand même.
C'est pas rien.
Mais il a été dit justement que le problème, c'est le chômage, d'accord. C'est aussi les très bas salaires. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un salaire à temps complet et vivre dans sa voiture. C'est quand même un problème sérieux.
Oui, je regrette, mais infiniment, que le gouvernement et de socialistes aient supprimé l'avantage qu'avaient les personnes qui avaient des heures supplémentaires, leur salaire baisser.
Pas supprimer les heures supplémentaires. C'est toujours possible.
C'est historique dans notre pays
possible,
que les personnes qui travaillent toujours
heures supplémentaires
ont vu leur salaire baisser. Je crois que c'est historique en France que des personnes ont vu leur salaire baisser.
Les 5 millions n'ont toujours pas de travail.
Voilà. Il vaut mieux donner du travail à ceux qui n'en ont pas.
On attend que le gouvernement en place fasse quelque chose.
Alors, on est arrivé au terme de cette émission de fin d'année. On peut supposer qu'on en aura une cette fois à Rodez en janvier, puisque on a des informations comme quoi la fin du monde finalement serait repoussée. Donc c'était ce soir Claude Devezin qui a dit Table ovale sans ellipse, avec autour de moi, pour Europe Écologie et Vert, Jean-Louis Calmette, pour l'Union démocrate et indépendante, Bernard Maure, pour le Parti communiste français Romain Vasse, pour le Parti socialiste Jean-Michel Boussier, et pour l'Union pour un mouvement populaire Laurent Tranier. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et à l'année prochaine, quand même.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Si Dieu le veut.